Ils sont là, bon pied, bon œil, pour une nouvelle année de chronique littéraire. Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Philippe Nouni et bonjour Diego Raval.
Bonjour messieurs.
Bonjour les deux Philippe, comme d'habitude, à chacun d'entre vous.
Alors, est-ce que les bonnes résolutions pour cette année, Philippe?
Oui, ben déjà, bonne année à la santé surtout. Je souhaite que ça, à tout le monde. Quand on a la santé, ça permet de faire tous les projets, de réaliser tous les projets qu'on a envie de vivre.
Ouais. Voilà, bonne année à tout le monde. Et puis une bonne résolution que j'ai prise, c'est de ne pas prendre de bonnes résolutions. Bon, au moins, je risque pas de les rater après.
Allez. Alors aujourd'hui, on va parler. Vous avez un sujet qui peut être détonnant, surtout à Radio Présence.
Alors, c'est un sujet qui pourrait être détonnant, tout simplement parce que lorsqu'un avocat inscrit au barreau de Paris depuis 25 ans écrit un roman et choisit comme personnage principal Jésus de Nazareth, d'aucuns pourraient s'en étonner. Ils auraient tort. Le parti pris de cet écrivain-avocat ou de cet avocat-écrivain est d'interroger le procès de Jésus. Pas d'avocat, pas de plaidoirie, en bonne et due forme. Pas de procès équitable sans présence d'une défense organisée et préparée. La justice mérite plus qu'on s'en lave les mains, et c'est justement l'objet de ce roman, L'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur. Bonjour Laurent Delvolvé.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes l'auteur donc de ce roman, L'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur, roman tout aussi étonnant que passionnant. Je vais lire la quatrième de couverture de votre roman et on en parle ensemble en suivant Laurent Delvolvé. Le procès de Jésus est certainement l'un des plus connus au monde, mais personne ne s'étonne qu'il n'ait pas eu d'avocat. Laurent Delvolvé, romancier et surtout avocat lui-même, a décidé de lui en donner un. Avec finesse et brio, il nous entraîne à la suite de cet homme qu'il imagine juif et citoyen romain, comme Paul de Tarse, ayant fait de longues études de droit, comme Nicodème et comme Cicéron, avocat et rhéteur devant les tribunaux romains. En suivant cet homme, on suit le Christ et sa passion. En écoutant sa plaidoirie, on se laisse emporter par le message de Jésus et on accepte avec humilité sa prochaine crucifixion. Laurent Delvolvé, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis déjà 25 ans. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce roman inspirant, cette uchronie ?
Alors oui, cette idée m'est venue tout à fait naturellement, c'est-à-dire que, comme tout avocat, on s'intéresse aux grands procès de l'histoire, et parmi les grands procès de l'histoire, il y en a un qui est quand même central dans notre civilisation, c'est le procès de Jésus de Nazareth, qui a réellement eu lieu, et par conséquent, comme tout procès qui s'est tenu, eh bien moi je me suis intéressé essentiellement à la question de savoir si les règles de procédure, les règles du droit applicables à l'époque avaient été ou non respectées. Je ne suis pas le premier à avoir fait cet exercice, hein. De nombreux avocats ont déjà travaillé le sujet, écrit des livres à cette occasion, et puis beaucoup d'historiens évidemment et de théologiens se sont penchés sur le sujet, donc moi je ne suis intervenu que pour me dire mais si Jésus avait eu un avocat, donc vous parlez du chronique, c'est bien de ça dont on parle, hein, que se serait-il passé? Et évidemment, c'est un roman, hein, donc tout cela est une invention, mais ça m'a semblé intéressant de me dire, plaçons un personnage dans cette histoire-là pour voir comment ce personnage aurait pu intervenir ou ne pas intervenir. C'est tout l'objet du roman lui-même. Hein.
Alors, l'intérêt, moi, je trouve, de votre roman, c'est que vous nous entraînez à votre suite pour comprendre les enjeux, mais aussi les limites du métier d'avocat. C'est-à-dire qu'il y a une véritable porosité entre l'époque actuelle, je trouve, et l'époque, effectivement, où s'est déroulé le procès de Jésus. Et vous rappelez un peu les enjeux du métier d'avocat, et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Je vais lire un extrait en page 12. Je trouve qu'il fait vraiment réfléchir sur le métier d'avocat. À ce propos, l'avocat se perdrait en conjecture s'il cherchait à jauger l'effet de ses plaidoiries sur le sens des décisions rendues. Nous ne sommes pas dans la tête des juges, il y a tellement de paramètres à prendre en considération. En réalité, l'avocat doit bien se garder de chercher à savoir si sa défense a eu quelque efficacité ou utilité que ce soit. Sinon, voilà bien longtemps qu'il aurait arrêté ce métier si particulier. Mais dans le même temps, l'avocat doit avoir foi dans la force de conviction de ses arguments, de ses interventions et de ses plaidoiries. S'il n'en est plus qu'un à croire à l'impossible, ce doit être lui, être capable, toujours, d'aller trop loin afin d'oser un argument supplémentaire, là où plus personne n'y croit, afin d'oser une dernière parole, là où plus personne n'a la force d'ouvrir la bouche, afin de défendre et de défendre encore, quoi qu'il en coûte de fatigue et de renoncement. Quand j'ai lu ce passage en page 12, j'ai aussitôt vu le film avec Rému, que vous avez sans doute dû voir, Laurent Delvolvé, L'inconnu dans la maison, où Rému joue le rôle d'un avocat qui doit défendre son futur gendre par rapport à un assassinat qui a eu lieu dans sa propre maison. Et je me suis posé une question, c'est notamment avec cette phrase que vous avez en page 16, cette question qui conditionne toute l'histoire. Vous écrivez « Condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres ?» Vous ne trouvez pas que votre chronique, elle est étonnamment moderne dans le monde qui est le nôtre ?
Oui, alors, ce qui est moderne, merci d'avoir cité ces passages-là, ce qui est moderne, en réalité, c'est l'œuvre de justice, la recherche de la vérité et la question de savoir comment nous, les hommes, nous participons à cette recherche de la vérité. C'est-à-dire que les avocats, en tout temps, sont ceux qui aident à la recherche de la vérité. On dit qu'ils plaident et qu'ils sont des menteurs, certainement pas. Les avocats sont là pour faire émerger et être, on dit, auxiliaires de justice, oui, participer à cela. Et donc, un procès d'il y a 2000 ans et un procès d'aujourd'hui, finalement, c'est toujours, on retrouve toujours les mêmes ressorts, à savoir que des hommes et des femmes font part de convictions et des hommes et des femmes vont juger, après avoir entendu ce débat contradictoire et le fait qu'un certain nombre de personnes se soient élevées pour faire état de la vérité, ou de ce qu'ils considèrent être la vérité. Et donc oui, il y a une actualité totale de tout procès, et en particulier du procès de Jésus. On peut vraiment se dire que la démarche de recherche de justice et de vérité est sensiblement la même il y a 2000 ans qu'aujourd'hui.
Parce que c'est vrai que cette question que vous posez, moi je l'ai relue plusieurs fois, hein, je vous avoue, ça m'a interpellé. Condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres ? Ça fait 2000 ans que cette idée, effectivement, elle est inscrite dans la Bible, qu'elle continue, hein, à infuser dans le monde qui est le nôtre, alors avec toutes les limites, effectivement, que l'on peut voir lorsqu'on regarde l'actualité internationale, hein, et ce, quelle que soit l'époque. Mais c'est vrai que cette question, condamne-t-on à mort quelqu'un pour avoir prêché de s'aimer les uns les autres, je m'étais jamais posé cette question de cette manière-là avant de lire effectivement votre livre. Et j'avoue que cette question, elle continue quelque part à me troubler, parce qu'on se rend compte effectivement en lisant votre livre que c'est ça en fait que les Romains effectivement cherchent à condamner. On condamne quelqu'un pour prêcher de s'aimer les uns les autres. Et cette idée, je trouve qu'elle est étonnamment moderne dans le monde qui est le nôtre. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu aussi faire passer au lecteur ? Lui demander, lui dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce message, quelqu'un de prêcher, de s'aimer les uns les autres, est-ce que finalement, c'est pas un message qui continue à être étonnamment moderne ?
Oui, c'est merci de souligner ça. C'est extrêmement moderne et extrêmement révolutionnaire, en somme. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est apparu en travaillant le sujet, c'est que Jésus de Nazareth a été condamné pour blasphème, et uniquement pour les paroles qu'il a proférées. C'est uniquement ce qu'il a dit qui a fait l'objet d'une condamnation. Vous avez parlé des Romains, il faut parler aussi de certains représentants du peuple juif dans ces condamnations. Il y a plusieurs procès de Jésus en réalité, hein, et quand on dit le peuple juif, en réalité, c'est la représentation de tous les hommes qui n'ont pas accepté de voir ce message d'amour dans la parole de Jésus, et ça les bouscule à tel point qu'ils veulent le mettre à mort. Et quand vous parlez d'actualité, oui, il y a une actualité évidente, c'est que dans tous nos procès, aujourd'hui encore, il y en a un certain nombre où c'est uniquement des paroles qui sont proférées qui font l'objet de condamnations. Alors évidemment, quand celles-ci sont contraires à la loi, c'est bien normal, mais dans certains cas, les personnes sont poursuivies à tort, et là, il est nécessaire que des avocats se lèvent pour défendre, et défendre encore, il y a une actualité certaine de ce message. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce que j'ai vécu en écrivant ce livre, c'est que j'avais pas du tout l'idée de faire ce parallèle entre mon métier d'aujourd'hui et qui est partagé par un grand nombre de personnes, hein, ce métier d'avocat du 21e siècle et le métier d'avocat, ou en tout cas le fait de suivre un procès en l'an 33. Et il y a eu des ponts entre les deux, montrant, mais malgré moi, montrant l'actualité, effectivement, du message défendu par Jésus tout au long de sa vie publique, et que n'a pas accepté sa génération. On peut dire qu'il n'accepte pas encore beaucoup de monde de notre génération. Mmh. Et d'où cette actualité et le fait de faire des ponts entre ces deux époques. Alors oui, vous parlez du chronique, on peut aussi se dire qu'il y a une actualité criante de la vie de Jésus aujourd'hui dans notre propre vie.
Alors c'est vrai qu'après, vous le citiez tout à l'heure, ce qui est intéressant en lisant aussi votre roman, c'est qu'on se rend compte que le procès de Jésus n'est pas un procès unique, mais un procès à tiroir en fait. Hein, il y a le procès donc dans le tiroir des Romains, il y a le procès dans le tiroir effectivement des Juifs, on voit qu'il est jugé effectivement à plusieurs niveaux, et je trouve que c'est très intéressant cette revisite que vous faites effectivement, non pas de ce procès, mais de ce procès à tiroir de Jésus, donc de tous ces procès. Moi je me suis posé une question en lisant votre livre, c'est comment vous avez fait pour parvenir à rentrer dans la peau de cet avocat qui défend Jésus ?
Alors ça c'est tout le mystère de l'écriture, et quand vous disiez je suis avocat et romancier, ou romancier et avocat, oui, dans le processus d'écriture, on est totalement pris par un sujet, et en l'occurrence, là où ça a été assez facile pour moi, c'est que le gardé à vue du 21e siècle, c'est le même gardé à vue du 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire que le processus de mise en captivité d'une personne, n'a pas d'époque. Le fait d'être privé de sa liberté entraîne exactement les mêmes conséquences à toute époque de notre civilisation, c'est-à-dire que, étant privé de sa liberté de mouvement, d'aller et venir, on est privé aussi de sa liberté physique, et donc il ne nous reste plus que la liberté intérieure. Et ça, on le voit très bien dans les relations avec les personnes que l'on défend. Le gardien à vue nous dit, mais sortez-moi de là, la première chose que je vous demande, c'est de rendre ma liberté. Et donc c'est un combat pour la liberté, ce procès de Jésus. Et Jésus lui-même est le premier à prêcher la liberté, et vous parliez de l'amour, en fait, de la liberté de s'aimer les uns les autres, et quand il est gardé à vue par dans les geôles romaines, il est, et j'en suis persuadé, en tant qu'homme, il n'a qu'une volonté, c'est de retrouver cette liberté. Et c'est pour ça que rentrer dans la peau d'un avocat, même en l'an 33, n'a pas été si difficile pour moi. Alors peut-être que ça peut faire l'objet de grandes critiques, hein, il n'y a aucun sujet, à partir du moment où on écrit, on accepte les critiques, mais il me semblait que cet homme, Jésus Nazareth, en l'an 33, n'est pas si différent de l'homme que je rencontre lorsque je vais au parloir, voir les différentes personnes qui ont été privées de liberté. Et ce passage-là, à chaque fois, me saisit. C'est-à-dire que je vois dans la personne privée de liberté, je vois le visage du Christ.
C'est un passage que vous écrivez avec une force énorme, ça, dans votre roman. Je dois vous avouer, moi, quand je lis un roman, il m'arrive de relire plusieurs fois des phrases, tellement ces phrases, je trouve qu'elles ont une force extrêmement... une portée extrêmement forte. Ça a été le cas effectivement de cette phrase quand vous rencontrez donc un prévenu et que vous voyez dans son regard quelque part ce qu'il attend de vous, et effectivement cette remise en liberté. Et je trouve que cet aller-retour que vous faites entre l'époque actuelle, ce que vous faites dans votre métier aujourd'hui d'avocat depuis 25 ans, donc inscrit au barreau de Paris, et puis cette uchronie dans laquelle vous vous imaginez donc un avocat de Jésus, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent. Je vais lire un passage en page 18, effectivement, sur l'esprit qui est le vôtre au moment où vous allez rencontrer Jésus pour le défendre. Qui est cet homme qui dans un instant va s'asseoir en face de moi? De quoi est-il accusé? Qu'a-t-il vraiment fait? Quelle est sa vie? Que lui dire dans les quelques instants que nous avons ensemble? Comment rendre efficace cette défense pénale d'urgence? Je sais que ce type d'affaires ne traîne pas. Et la Pâque qui arrive. Ils ne vont tout de même pas expédier cela dans la journée. Il va falloir être synthétique, efficace, direct, aller droit au but l'un et l'autre. Chaque mot, chaque instant compte dans ce genre de situation. Le bruit de pas d'une escorte de gendarmes, un cliquetis de clés, la lourde porte de métal grise s'ouvre en grinçant. Un garde romain, au visage dur et fermé, tient d'une main féroce les liens qui entravent l'homme, dont j'aperçois immédiatement la grande silhouette dans sa tunique de lin blanc, apparaissant dans l'embrasure de la porte. C'est un hébreu au visage régulier. Il fait environ 1m80, les cheveux noirs tombant sur les épaules, l'arrêt au milieu, une barbe arrondie de taille moyenne. Je croise son regard. Il me sourit avec douceur malgré son visage tuméfié, des coups qui lui ont déjà été portés. Le garde lui défait ses liens et le fait asseoir avec brutalité sur le tabouret de bois qui fait face au mien, puis il se retire en me demandant de cogner à la porte quand j'en aurai fini avec lui. Voici l'homme. Vous auriez pu écrire Ecce Homo en latin. C'est... voilà. Pouvez-vous bien concevoir cette rencontre au parloir des avocats entre l'accusé, Jésus de Nazareth, et un modeste avocat de Jérusalem? Oui, sans doute, car pour moi, je vous dirai que cette rencontre est à l'image de toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma carrière d'avocat. La première mise en présence avec celui qui est un accusé, mise en cause, gardé à vue, incarcéré, placé en détention provisoire, privé pour le moment de sa liberté d'aller et venir. Le premier face-à-face avec un prisonnier est toujours une expérience de vie qui vous marque durablement comme avocat, quels que soient les liens que vous aviez ou non précédemment avec lui. Ces premiers face-à-face ont de multiples points communs, même s'ils ne sont jamais les mêmes, jamais banal ou ordinaire, et auquel la routine ne parvient jamais à retirer ce caractère unique d'une rencontre entre deux humanités que tout sépare et que tout rapproche. J'en ai la sœur Richard de Poul, vous voyez, en lisant ce passage, Laurent Delvolvé, parce que vous mettez dans vos mots une telle force que vous arrivez à passer à travers le livre, et j'avais l'impression de vous avoir en face de moi. Voir cet avocat, Laurent Delvolvé, pourtant je ne connais pas votre visage, qui me parlait. Vous avez eu conscience de vouloir faire ça au moment où vous avez écrit, que quelque part ce ne soit pas que des mots, mais qu'on vous entende déclamer comme si vous étiez à la barre?
Oui, merci, c'est très gentil. En fait, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est du vécu. Et quand vous relisiez ce passage, je revois les visages des personnes que j'ai pu assister au moment où elles étaient effectivement placées en garde à vue. C'est le moment le plus saisissant, où la personne ne s'attend absolument pas à être embarquée par les gendarmes ou la police, et est complètement nue, en fait, retrouve son humanité totalement désarmé. Et quand vous relisez ce passage, vous vous dites, mais en fait, tout cela, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des moments de vie et qui nous marquent, et qui nous marquent effectivement durablement. Je peux vous citer toutes les personnes que j'ai assistées dans ces conditions. Elles sont désarmantes de vulnérabilité. Et c'est là où l'avocat a un rôle important. C'est d'abord de ne pas profiter de cette faiblesse, mais au contraire, de s'appuyer sur cette faiblesse pour faire émerger une défense la plus efficace possible, mais tenant compte aussi de ce lien que l'on crée en un instant avec cette personne. Et sans trahir de secret, ces liens, eux-mêmes perdurent, c'est-à-dire que les personnes qu'on assiste, très fréquemment, elles nous sont effectivement reconnaissantes, pas forcément de la défense qu'on a pu mettre en œuvre, mais de ce lien d'humanité que l'on a tissé à un moment où elles étaient les plus fragiles.
Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que je n'avais pas en tête. Moi, je n'ai jamais été assisté d'un avocat, donc c'est vrai que je n'ai jamais eu cette rencontre. On n'avait jamais, depuis 13 ans maintenant qu'on fait cette émission, donc interviewer effectivement un avocat ayant écrit un livre comme vous l'avez écrit, avec cette pertinence, avec cette justesse. Alors, on attribue très souvent des policiers qui sont venus, qui sont interviewés, qui ont écrit des polars. Ça, on en a eu, mais on n'a jamais eu d'avocat. Vous êtes le premier, Laurent Delvolvé.
Bon, bah, je suis très honoré.
Vous ouvrez le bar.
Voilà, mais bon, après, les avocats ont des facilités, ils parlent souvent bien, ils parlent longuement, et puis il y a aussi une tradition, je le souligne, d'avocats écrivains. On peut regarder tous ceux qui m'ont précédé avec des ouvrages très intéressants. L'avocat, lui, il va puiser dans sa vie de tous les jours, et comme on voit des histoires qui ont toutes un intérêt, c'est bien de les coucher sur le papier. Mais là, effectivement, il y a eu ce lien particulier avec l'histoire de Jésus qui m'a touché, tout en me faisant me dire, mais on n'est pas si loin. Ça a beau avoir eu lieu il y a 2000 ans, en réalité, ce que Jésus a vécu, beaucoup de personnes le vivent dans leur propre procès. On peut, chaque personne qui est poursuivie, mais quel que soit le domaine d'ailleurs, chaque personne qui a affaire à la justice peut s'appuyer sur Jésus pour affronter le procès, qu'il soit d'ailleurs plaignant ou poursuivi.
Et c'est là effectivement où je vais lire un dernier passage là en page 32 avant qu'on arrive là après au bout effectivement de cette émission littéraire. C'est en page 32, vous vous adressez donc à Jésus et c'est un passage également que j'ai trouvé extrêmement émouvant. Rabbi, puisque c'est ainsi que l'on vous nomme à Jérusalem et aux alentours. J'ai bien noté votre demande de ne pas être assisté d'un avocat pour vous défendre dans les procédures qui vont bientôt se poursuivre. Je respecte de votre souhait, mais avant de quitter ce parloir et de vous laisser seul, il me faut, au titre de mon devoir d'information, vous faire part de ce qui va arriver afin que votre décision soit prise en pleine conscience. D'abord, vous serez traité et traîné comme moins qu'un homme à coup sûr. Or, la présence de l'avocat, sa seule présence, permet à minima de rappeler à vos accusateurs, juges et bourreaux, votre humanité et la nécessité de respecter en toutes circonstances la dignité humaine, sans cependant garantir qu'elle sera effectivement respectée. Au moins, aurons-nous essayé. Ensuite, Rabbi, vous allez être interrogé par des gens animés manifestement d'une immense haine à votre égard. La présence de l'avocat permet, j'en suis sûr, de tempérer, même inconsciemment, cette haine en leur imposant de veiller au respect de la procédure si les uns et les autres ne veulent pas avoir de compte à rendre aux autorités, aux familles, au grand public, à l'histoire. En lisant ce passage, vous voyez, j'ai pensé, pour moi qui, ayant gamin, ai vécu en Iran, aux événements qui se déroulent aujourd'hui donc en Iran, et... où les personnes qui sont arrêtées n'ont pas d'avocat. Donc les policiers en face d'eux peuvent faire effectivement tout ce qu'ils veulent. Et on mesure bien, à travers ce passage, toute l'importance que revêt l'avocat dans une démocratie pour pouvoir à un moment donné effectivement protéger une personne, faire valoir ses droits et surtout ce terme que vous réemployez, faire valoir son humanité. Voilà, moi je voulais vraiment, Laurent Delvolvé, recommander votre roman « L'avocat de Jésus » publié chez Pierre Tecky éditeur. C'est la première fois qu'on a commenté donc un livre de cet éditeur. On espère d'ailleurs pouvoir interviewer le directeur de cette maison d'édition pour qu'il nous parle un peu de sa politique éditoriale. Un dernier mot, Laurent Delvolvé, si vous pouviez revenir dans le passé et défendre Jésus, seriez-vous aujourd'hui un avocat différent de celui que vous avez été dans votre roman? Ou est-ce que vous diriez exactement la même chose?
Ah, écoutez, c'est toujours difficile, puisqu'on plaide et on assiste dans l'instant présent. C'est-à-dire que... on peut tout préparer. L'avocat, il prépare encore, il travaille énormément avant les audiences, mais... sa façon de se comporter dépend essentiellement de ce qui va se passer à l'audience. Les incidents d'audience, la façon dont les juges se comportent, les différentes parties. Et donc, tout le jeu de l'avocat, hein, le jeu au sens positif du terme, la préparation de l'avocat, c'est d'être prêt sur le moment présent. Et donc, si on devait recommencer à assister Jésus, d'ailleurs, on le fait chaque jour à la messe, hein, le procès de Jésus se reproduit chaque jour à la messe, hein, je le rappelle, tout dépendra de la façon dont je suis moi-même et il faudra être prêt en fonction de l'instant présent à défendre avec les éléments, la salle, tout ce qui va se passer. Et donc quand vous me posez la question de savoir si je referai exactement la même chose, je préparerai exactement de la même manière. Mais ce qui va advenir, seul l'instant présent le dira.
Seul l'instant présent le dira. Écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur cette antenne, Laurent Delvolvé, l'avocat de Jésus, publié chez Pierre Tecky, éditeur, où vous mettez dans la peau de l'avocat de Jésus, mais tout en faisant un lien, en ayant une porosité avec l'époque actuelle et en expliquant effectivement l'intérêt incontournable dans nos démocraties, effectivement, du rôle de l'avocat. Merci encore d'être présent. Et puis Laurent Delvolvé, on compte sur vous. Si vous écrivez un autre roman, vous n'hésitez pas à nous l'envoyer en service de presse à présence et on reviendra vers vous avec grand plaisir.
Merci de m'avoir entendu et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien écoutez, je suis bluffé, monsieur Nolli. Vous démarrez bien l'année.
Ah.
Je suis fier de vous.
Je donne envie de lire, je sens, Philippe Subercase.
Ah oui, oui.
C'était mon premier pari de l'année, ma première résolution de l'année. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure à Diguar à Balin. Ma première résolution, c'était faire lire Philippe Subercase.
Oui, d'autant plus que le livre est quand même relativement concis, puisqu'il fait quoi? Il fait une 150-200 pages, même pas.
120 pages, ouais. Mais vraiment.
C'est dense.
C'est vraiment un plaisir, effectivement, de le lire. Et puis, c'est cet aspect qu'il a. Vous savez, un roman, ce qui est bien, c'est d'avoir quelque part un angle mort que n'ont pas traité les autres. Alors, Laurent Delvolvé nous l'a expliqué, hein, il y a eu d'autres personnes, d'autres avocats qui ont écrit des livres, effectivement, sur le procès de Jésus. Moi, c'est le premier que je lis.
D'accord.
Et je dois avouer que ce qui est bien, c'est que c'est un avocat qui l'écrit, comme lorsque c'est un policier dans les polars que nous présente Diego Arrabal.
C'est de quoi il parle.
Voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que justement, je ne m'attendais pas à trouver ça, c'est-à-dire cette première rencontre, comme il dit, avec un prévenu, et notamment cette humanité qu'il fait passer. Et le fait que sa seule présence, comme il le dit dans l'extrait que je lisais tout à l'heure, ben ça fait qu'à un moment donné, ben les policiers, ils vont faire attention, effectivement, peut-être à pas trop secouer la personne. Et on sait que, bon, en démocratie, comme dans une dictature, il n'y a aucun problème. Hein, ça, je l'ai connu en Iran quand j'étais gamin, mais il peut à un moment donné, effectivement, c'est le dernier rempart qui peut exister, et c'est pas neutre. Et je pense que c'était bien que ça, il nous le rappelle. Et bon, voilà. Et je voulais dédier cette émission, si vous permettez, Philippe Subercase, à Robert Badinter, hein, vous savez, bon, qui était avocat, hein, qui est rentré au Panthéon. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de tous ces avocats qui ont lu des textes que Robert Badinter avait préparés. Et comme le disait très bien Laurent Delvolvé, on prépare, mais ce qui va se passer, à chaque fois, va déterminer effectivement donc, la posture de l'avocat.
Très bien. Eh bien, écoutez, avec ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Ah oui, eh bien, avec plaisir.
Au revoir.
À la semaine prochaine.